maintenant, on va se lancer avec les personnes de Lyon, du collectif Lyon Anticrap.
Ils sont venus pour donc, présenter leur lutte contre les CRA, donc contre un centre de rétention qui existait déjà, mais aussi contre le nouveau centre de rétention qui a été construit il y a deux ans, en 2021. Voilà.
Bonsoir, ça fait super plaisir qu'il y ait autant de gens. Merci à tous d'être venus. Du coup, nous, on est des membres du collectif Lyon Anticra. Donc, c'est un collectif de lutte contre les CRA et de soutien aux personnes qui sont enfermées à l'intérieur. À Lyon, il y a deux CRA maintenant. Un CRA, c'est une prison où l'État enferme les personnes qu'il considère irrégulières sur le territoire français. Voilà. Du coup, La durée d'enfermement maximale dans ces prisons est de 90 jours. Avant, c'était 45 jours, mais la loi immigration de 2019 a doublé la durée d'enfermement. Donc les personnes qui sont enfermées, c'est des personnes qui n'ont pas commis de crime ou de délit. C'est juste des personnes qui sont considérées comme irrégulières par l'État. Dans les CRA, les conditions d'enfermement sont très dures et il y a beaucoup de témoignages de violences policières, de racisme. Il y a d'absence de traitements médicaux adaptés, la nourriture est très mauvaise et globalement, beaucoup de personnes dans les CRA disent que c'est pire que la prison. Voilà. Du coup, pendant ces 90 jours d'enfermement, le but de l'État, c'est d'expulser les personnes enfermées vers leur supposé pays d'origine. Dans les faits, c'est pas toutes les personnes enfermées qui sont expulsées. Le double but des CRA pour l'État, c'est donc d'expulser, mais aussi de traumatiser, de dégoûter, de torturer les personnes qui sont enfermées. Du coup, nous, on va vous parler de la situation à Lyon et des luttes qui ont eu lieu contre la construction du nouveau centre de rétention qui a ouvert en 2022. Lyon, ça fait partie des trois villes où il y a eu des nouvelles constructions depuis les années 2000. Donc il y avait aussi Olivet à côté de Orléans et Bordeaux. Donc à Lyon, le deuxième CRA a ouvert en 2023, pardon. À Olivet, il vient d'ouvrir et à Bordeaux, il n'est pas encore construit. Voilà. Du coup, je vais faire un point sur le contexte des constructions. Donc, comme Aïkou vient de le dire, pendant le premier quinquennat de Macron, il y a eu la loi immigration qui était portée par Gérard Collomb, qui avait annoncé des constructions, donc le CRA de Lyon, Bordeaux et Olivet. Je vais dire un petit mot sur la loi Darmanin. Dans le contenu de la loi, dans les faits, il n'y a pas grand-chose sur les CRA. Mais les CRA sont indispensables à la mise en œuvre de cette loi. Et il y a un certain nombre de circulaires et d'annonces que Darmanin fait depuis plusieurs mois qui annoncent beaucoup de mesures qui vont faciliter les délivrances d'OQTF. Du coup, une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Et qui vont aussi faciliter les expulsions. Ça annonce une explosion des places dans les CRA, car c'est le seul moyen d'appliquer cette loi Darmanin. Actuellement, en France, il y a 25 CRA existants, en France et en Outre-mer. Ça fait un total d'à peu près 50 000 personnes enfermées par an. Depuis 2019, il y a une augmentation des capacités d'enfermement et des capacités d'expulsion. Depuis ces années-là, il y a une explosion des projets de construction et d'agrandissement des CRA partout en France, notamment dans les projets terminés. Donc il y a le CRA 2 de Lyon, il y a l'ouverture du CRA d'Olivet en février 2023, donc il vient de 24, qui compte 90 places, et il y a l'agrandissement du CRA de Perpignan. Dans les projets en cours, il y a l'ouverture du CRA de Bordeaux prévu en 2026. En 2027, un autre où l'agrandissement du Ménil-Amelot, donc c'est en région parisienne, et il y a déjà un CRA de 240 places là-bas. Et 10 nouveaux projets, notamment près de Rouen, Nantes, Aix-en-Provence, Nice, Dunkerque, Mayotte et Dijon. Il y a un objectif du gouvernement qui a été énoncé et qui est de doubler le nombre de places en CRA d'ici 2027. Actuellement, il y a 1500 places en CRA. Du coup, le but, c'est d'en avoir 3000 d'ici 2027 et de porter la durée maximale de rétention de 3 mois, donc 90 jours actuels, à 18 mois pour les, et je cite, étrangers en situation irrégulière, fichés S ou délinquants. Donc une criminalisation massive qui va résulter en la délivrance beaucoup plus simplifiée des OQTF. Et également dans la loi Darmanin, il y a toute cette partie sur les secteurs en tension qui mène à un fichage de la part de la préfecture qui va faciliter les expulsions. Mais ça, peut-être qu'on peut revenir s'il y a des questions après dessus.
Du coup, là, on a fait un petit point un peu sur ce qu'était les CRA, etc. À la base, on avait aussi prévu de projeter un petit documentaire sur le contexte, mais là, le fait qu'on ait changé de salle et tout, ça fait qu'on va pas pouvoir le faire, mais on vous propose... ça fait que ça va pas pouvoir être fait, mais on vous propose après de projeter ce documentaire après dans la salle à côté, si jamais il y a des gens que ça intéresse quand même. C'est un petit truc qui revient sur l'histoire des centres et leur fonctionnement. Du coup, là, on va principalement se concentrer sur la lutte qu'on a menée contre la construction du centre de rétention à Lyon, qui du coup a ouvert en 2023, c'est ça. Du coup, pour le contexte, à Lyon, il y avait déjà un centre de rétention administratif, et du coup, le collectif, il existait déjà depuis 2019, environ 2018-2019. Et du coup, le principal rôle du collectif, avant qu'on apprenne qu'il y a un nouveau centre qui soit en construction, c'était de soutenir les luttes des personnes enfermées dans le premier CRA. Du coup, ça a beaucoup conditionné la manière dont on a organisé notre lutte, parce que on avait déjà beaucoup de choses à faire pour mobiliser sur ces questions-là. On avait beaucoup d'activités déjà. Voilà, ça faisait qu'aussi on était facilement identifiable, parce que quand on va faire des listes au centre de rétention administratif, on est obligé de donner notre carte d'identité. Du coup, c'est vrai que les membres du collectif sont facilement identifiables. Que, voilà, on fait des prises de parole dans les manifestations, etc. Du coup, ça faisait qu'il y a eu une difficulté à concilier les deux, de mener cette lutte-là contre le nouveau centre et de continuer à mener la lutte en soutien aux luttes des personnes qui avaient à l'intérieur. Du coup, cette situation, elle nous a mené à avoir pour projet de créer un comité de mobilisation dont le collectif Anticra fasse partie, mais qu'on ne soit pas les seuls à mener cette lutte-là contre la construction de ce nouveau centre-là à Lyon. Du coup, on a eu pas mal de discussions au début sur les alliances qu'on voulait construire, avec qui est-ce qu'on avait envie de s'organiser pour lutter contre ce projet-là. Donc très rapidement, on a mené des liens avec des collectifs anticarcéraux qui existaient déjà à Lyon, comme le Genépi, qui maintenant n'existe plus, des collectifs de sans-papiers, des associations et des collectifs de soutien aux personnes exilées, voire jusqu'à des tentatives d'alliance avec des collectifs écologistes locaux. Du coup, on s'est aussi posé beaucoup de questions sur comment on voulait que ce comité-là il s'organise. Est-ce qu'on voulait que ce soit un comité, une sorte d'inter-orga avec des partis, des syndicats, des associations, etc. Ou est-ce qu'on voulait que ce soit une assemblée plus autonome qui puisse mener des actions directes, par exemple, des tentatives de sabotage ou des choses comme ça. Du coup, il y a plusieurs réunions qui ont été organisées pour faire de l'information et pour essayer de créer cet intercollectif-là. Et aussi, il y a eu un élément qui était important, c'est qu'en fait, pendant notre lutte contre la construction, il y a très rapidement le Covid qui est arrivé. Du coup, ça a beaucoup compliqué l'organisation contre le centre, pour plusieurs raisons sur lesquelles on reviendra après. C'est qu'à la fois, pour nous, pour s'organiser, c'était plus compliqué, parce qu'on ne pouvait pas se rencontrer, on ne pouvait pas se voir, etc. Et la situation dans le CRA, elle était particulièrement compliquée au moment du Covid, comme dans tous les lieux d'enfermement. Il n'y avait aucune mesure sanitaire prise, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de prisonniers qui étaient en lutte à l'intérieur. Il y a une des stratégies des prisonniers du CRA qui était de pas de refuser les tests PCR qui étaient nécessaires pour prendre leur billet d'avion, enfin pour qu'ils soient expulsés en avion. Et du coup, ça, c'était criminalisé, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de prisonniers qui allaient en prison. Du coup, on avait toute cette partie-là à gérer en plus du projet contre le prince. Dans les choses qui ont été tentées, il y a bien sûr de trouver le lieu du chantier très rapidement, parce que très rapidement, on a eu on a eu accès à l'appel d'offres sur les sites de marché public. Donc, on a pu savoir la zone géographique dans laquelle ce centre-là il voulait être construit et les entreprises qui devaient y participer. Mais on avait du mal à trouver le lieu précis. Du coup, pour rechercher des informations sur le chantier, il y a plusieurs personnes qui se sont fait passer pour des étudiants en architecture qui s'informaient sur l'agrandissement de la zone aéroportuaire pour aller prospecter auprès de la mairie de la commune sur laquelle l'aéroport est situé et dans laquelle le CRA devait être construit. Malheureusement, ça n'a pas vraiment abouti parce qu'il y avait des barrières, ça devenait compliqué, ils nous demandaient des justificatifs et tout pour pouvoir accéder à certains dossiers. Mais après, c'est une technique qu'on a aussi utilisée pour prospecter auprès des commerçants locaux. Et du coup, comme ça, auprès d'un concessionnaire automobile de la zone de l'aéroport, on a su que c'était sur un des terrains qui était à côté de son commerce. Mais on a été sûr de l'endroit précisément sur lequel, dans lequel le lieu, il devait avoir, la construction devait avoir lieu seulement au moment où il y a le permis qui a été déposé sur le terrain. C'était en fait, on faisait régulièrement des rondes, on allait régulièrement prospecter les chantiers qu'il y avait dans la zone de l'aéroport pour savoir, parce que jusqu'au dernier moment, on n'était pas certain de quelle parcelle exactement allait accueillir le nouveau centre. On avait une idée grâce à l'appel d'offres qui donnait une surface. On avait plusieurs terrains qu'on suspectait, mais on ne savait pas exactement lequel avant qu'on trouve l'appel d'offres.
Peut-être juste un truc qu'on n'a pas dit, c'est que déjà les infos qu'on vous donne, c'est vraiment dans l'idée que ça vous serve à Dijon. Du coup, n'hésitez pas à nous interrompre s'il y a des trucs pas clairs. Aussi, nous, on est dans ce collectif depuis longtemps et on sait bien qu'est-ce que c'est l'ECRA. Du coup, il y a des choses qui nous paraissent peut-être évidentes qui ne le sont pas. Donc n'hésitez pas à nous interrompre pour poser des questions ou apporter des éléments. Et sinon, pour continuer un peu ce qu'a dit Cravant, moi je vais vous parler des moyens d'action qu'on a envisagés, parce qu'on a fait comme vous au début, on a fait des assemblées pour essayer de trouver une stratégie. Et la première question qu'on s'est posée, c'est la question des alliances à faire, avec quel collectif, quel courant politique. Et y a eu pas mal de tentatives pour monter, c'est ce qu'on a dit déjà, un collectif constitué de plein d'organisations différentes. On avait envie d'essayer de créer un groupe large qui permette d'avoir une certaine visibilité et une certaine puissance. Et c'est ce qui a été fait aussi à Orléans, contre la construction du CRA à Orléans. C'est un collectif qui s'appelle Colère, qui s'est créé contre le CRA, et qui était vraiment constitué de gens de la Ligue des droits de l'homme, de ATTAC, des Verts, de partis, de syndicats, de la CIMAD. Et voilà, c'est cette tournure-là que ça a pris à Orléans. Et à Paris aussi, c'est des choses comme ça qui ont été tentées contre la construction du CRA du Ménilamlo. Peut-être que nos camarades de Paris pourront en parler tout à l'heure. Et en tout cas, à Lyon, ça n'a pas marché, cette tentative de création d'une grosse assemblée de collectifs et de syndicats. Et sinon, dans les autres tentatives d'alliance qu'on a faites, comme on savait que le CRA allait être construit près de l'aéroport, on a essayé de faire des liens avec des collectifs qui existaient déjà là-bas, parce qu'il y avait notamment un collectif de voisins de l'aéroport qui avait essayé de mener une lutte contre l'extension de l'aéroport, qui est tout le temps agrandi globalement. Ça n'a pas marché. Et on a aussi essayé de sensibiliser les voisins riverains de la commune au projet de construction du CRA. Voilà. Ah oui, aussi, on a essayé de faire des liens avec un collectif plutôt écologiste qui luttait contre la création d'une plateforme logistique de Amazon, juste à côté de là où le CRA devait être construit. Mais ça, c'est pareil, c'était des collectifs assez éphémères, on va dire, et du coup, en fait, nous, quand on les a contactés, ils avaient déjà plus trop d'existence réelle. Voilà, et sinon, pour les autres liens qu'on a faits, qui ont un peu plus marché, c'est les échanges avec les autres collectifs qui s'étaient constitués dans les villes où il y avait des projets, donc à Orléans, à Bordeaux un peu, et aussi avec Paris. On a fait quelques dates de mobilisation commune, notamment qui étaient des moments d'information et de mobilisation. Et à Lyon, les liens qui se sont surtout faits, c'est des liens avec le collectif des sans-papiers de Lyon, qui s'est beaucoup mobilisé avec nous sur cette question, et aussi avec des collectifs plutôt anticarcéraux, contre les prisons. Ça, c'était pour les alliances. Et sinon, on a aussi envisagé la question des recours juridiques contre le projet. On a été en contact avec justement l'avocat qui avait aidé les gens qui luttaient contre la construction de la plateforme Amazon. Et en fait, on a assez vite compris que le permis de construire, on pouvait le contester soit pour des raisons écologiques, ce qui n'était pas du tout utilisable dans notre contexte parce que le terrain, il était à moins de 100 mètres des voies de l'aéroport, donc il n'y avait aucune chance de pouvoir utiliser cet argument. Et l'autre argument qu'on pouvait utiliser juridiquement, c'était le fait que le projet allait nuire au voisinage. Et ça, pareil, c'était pas du tout possible vu qu'on était sur la zone de l'aéroport, dans une zone logistique avec que plein d'infrastructures, mais pas d'habitation. Donc voilà, la question du recours juridique, elle n'a pas été utile dans notre cas, mais à Bordeaux, par exemple, ça a été utilisé. Je ne connais pas trop les détails, mais je crois qu'il y a le premier permis de construire, il a été suspendu, voire empêché. Il a permis de...
En gros, si je me souviens bien, c'est qu'à Bordeaux, ils ont réussi à faire des pressions sur la mairie, mais plutôt, en fait, c'était des arguments qui n'étaient pas très progressistes sur le fait. Enfin, c'était plutôt des voisins qui avaient peur qu'il y ait une prison qui se construise à côté de chez eux, et du coup, ils ont réussi à faire pression sur la mairie et légalement réussir à empêcher cette construction. Qui du coup a beaucoup retardé le projet parce qu'ils ont dû changer de ville ou construire le centre, et du coup ce qui fait que des trois autres constructions qui ont eu lieu après 2019, Bordeaux c'est celle qui a même pas encore commencé quoi.
Et sinon une autre question qu'on s'est beaucoup posée, c'est la question des actions contre le chantier. Et aussi de le fait de mettre une pression sur les entreprises qui étaient impliquées dans le chantier. En l'occurrence, c'était Vinci qui louait le terrain à l'État pour la construction du CRA, parce que Vinci est propriétaire de toute la zone de l'aéroport de Lyon. C'était Eiffage qui était le pilote du projet de construction. Et après, il y avait toute une liste d'entreprises, d'architectes, les gens qui s'occupaient de la maintenance, de l'électricité. Enfin, il y avait au moins une quinzaine d'entreprises qui étaient connues. On savait combien elles allaient gagner sur le chantier. Et c'était intéressant pour nous de visibiliser ça et voire même d'intimider ces entreprises pour qu'elles réfléchissent à deux fois avant de s'engager sur le projet. Et donc, on a pas mal envisagé des actions au moins de visibilisation du rôle de ces entreprises, des collages sur leurs locaux, des tractages auprès de leurs employés ou de leurs clients, On a écrit plusieurs articles sur le sujet. Et après, pour la question du chantier en particulier, on a envisagé plusieurs fois de soit bloquer le chantier, soit organiser une occupation de une des entreprises les plus du siège d'une des entreprises les plus impliquées. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas été faites finalement pour plein de raisons, mais notamment quand même le contexte du Covid et du confinement. Et aussi le fait que, comme l'aéroport, il n'est pas du tout accessible depuis le centre de Lyon, c'était assez difficile d'envisager des actions avec du monde aussi loin, en gros, du centre. Je ne sais pas à Dijon comment c'est l'accessibilité du chantier, mais en tout cas, pour nous, ça a beaucoup joué.
Il y a eu aussi d'autres formes de mobilisation tout au long du projet de construction et de la construction. Donc c'était des formes de mobilisation plus sur le long terme, donc c'était aussi plus faisable pour nous. Donc il y a eu de l'affichage et du tractage quasi en continu, avec notamment en mentionnant le nom des boîtes collabo impliquées dans la construction du CRA. Il y a eu aussi du tractage pendant d'autres manifestations. Donc à l'époque c'était les manifestations contre la loi de sécurité globale, et de la marche des solidarités. Et les collages, il y a eu aussi eu des collages un peu partout dans la ville en général, mais aussi pendant des manifs et sur les devantures de boîtes collabo.
Là, juste pour vous dire, là, on a encore une petite partie qui est plutôt... oui, on a encore une petite partie qui est plutôt sur... Enfin, donc une partie un peu chronologique, voilà, où on a repris un peu les dates de toute cette petite aventure. Et après, on a un petit bilan, mais s'il y a besoin qu'on fasse une... pose un peu pour des questions, enfin on a déjà dit beaucoup de choses, donc si y a des personnes qui ont envie de réagir, après on peut le faire à la fin aussi, mais on continue.
C'était pour juste revenir à ce que tu disais sur le comité à Lyon des diverses orgas. Tu disais que ça n'a pas marché et tu n'as pas dit pourquoi.
Mais en fait, je ne sais pas s'il y a une seule explication. Mais en tout cas, ça n'a jamais pris. Nous, on était un peu tiraillés entre le fait de faire un groupe avec des gens en qui on avait confiance pour... disons, la question du chantier et de ralentir le chantier, d'un côté, et la question d'informer et faire une campagne médiatique autour du projet, c'était deux projets assez différents. L'un qui impliquait de la visibilité, des prises de parole, le fait de se faire connaître, quoi. Et l'autre qui impliquait de la sécurité. Et comme on était le seul groupe à vouloir faire les deux, on n'a pas réussi à faire les deux. Et on espérait que les autres collectifs à Lyon, il y a beaucoup de collectifs qui sont mobilisés sur ces questions de soutien aux personnes exilées. Et on espérait que ces collectifs-là allaient se saisir de nos appels. Et ça n'a pas pris pour des raisons, pas forcément... Enfin, il n'y a pas une seule raison, quoi. Et il y avait quand même beaucoup le contexte du Covid, confinement, qui faisait que tout était plus compliqué.
Et je ne sais pas, pour compléter aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du fait que... Enfin, on espérait d'un côté qu'il y ait des gens du milieu plus autonome, etc., qui fassent des actions que nous, on ne pouvait pas se permettre de faire parce qu'on était déjà public. Et que, aussi. Et du coup, ces gens-là n'ont pas fait ça. Il n'y a personne d'autre qui s'est saisi de ces questions-là, à part les gens qui étaient déjà dans le collectif. Et de l'autre côté, on va dire la sphère plus institutionnelle, ça les intéressait pas trop de parler des constructions, en tout cas à ce moment-là. Et ils étaient, enfin oui, il n'y avait pas énormément de. Oui. Il y avait peut-être aussi le contexte où il y avait déjà. C'était le moment où il y avait la marche nationale des sans-papiers qui partait de Marseille pour aller jusqu'à Paris. Et du coup, je pense que c'était déjà beaucoup d'organisation de faire ça. Et ils ne voulaient pas faire plusieurs choses en même temps.
Ouais, moi j'ai l'impression, au niveau de la temporalité aussi, qu'il y a eu cette idée un peu quand même assez avant, quoi, que le début du chantier, tout ça, de se structurer. Et en fait, ça c'était début 2020, quoi, on va dire, ou fin 2019. Et ensuite, il y a eu le confinement. Et effectivement, l'idée de la structuration en collectif plus large, quoi, qui serait vraiment un collectif de lutte contre la construction, elle a un peu été court-circuitée par les difficultés de se rassembler, quoi, pendant quand même une longue période, finalement, à partir de printemps 2020. Et du coup, ensuite, ça a plutôt pris la forme de continuer de parler, diffuser beaucoup cette information dans les différentes luttes qui étaient déjà existantes, donc les manifestations qui avaient lieu, mais moins du côté de se structurer en collectif de lutte contre.
Et aussi, le problème qu'on a eu, c'est qu'on avait toujours un train de retard du fait qu'on ne trouvait pas où était le projet. On savait à peu près la zone, mais on ne savait pas où était le chantier. Alors que à Dijon, c'est pas la situation, donc ça va vous faire regagner du temps.
Je peux poursuivre avec la petite chronologie, ça donne aussi un peu des éléments de contexte. Donc, on a appris en début 2019 qu'il allait avoir un nouveau CRA à Lyon, enfin un deuxième CRA à Lyon, par le site des marchés publics. L'annonce officielle, elle a eu lieu en novembre 2019, donc en même temps que celui de Bordeaux et Olivet, comme on le rappelait. Début 2019, il y a eu des travaux, enfin, pas vraiment des travaux, mais en fait un agrandissement du CRA déjà existant à Lyon. Ils ont rajouté des préfabriqués, en fait, ça a déjà augmenté le nombre de places à ce moment-là. À partir de l'automne 2019, on a su que le nouveau CRA allait faire 140 places, et on a eu un peu plus d'informations sur le lieu, mais tout ça, comme il disait Lou, ça restait très approximatif jusqu'à ce qu'il y ait le permis de construire. Donc on savait à peu près la zone à ce moment-là, mais on n'a pas eu d'informations précises avant. Il y avait déjà un CRA à Lyon qui était ouvert, actif, voilà, qui était le CRA dans lequel beaucoup de personnes étaient enfermées et sur lequel se concentrait la lutte anti-CRA à ce moment-là. Par contre, on ne savait pas où allait être ouvert, où allait se situer le nouveau CRA qui allait être construit. Et du coup, la première réunion, qui était une réunion semi-publique, c'est-à-dire qu'on avait diffusé l'information un maximum comme on le pouvait sans pour autant le publier publiquement, a eu lieu en mars 2020, donc effectivement juste avant le confinement. Ensuite, pendant le confinement, donc du printemps 2020, le collectif a été très mobilisé dans le soutien des prisonniers et prisonnières du CRA 1. Et notamment, c'est une période où le CRA a été quasiment vidé, il y a eu beaucoup de libérations, mais les personnes étaient complètement bloquées en sortant du CRA, donc il y a eu beaucoup de sollicitations aussi de demandes de soutien de ces personnes après leur enfermement en CRA. En juin 2020, on a fait une assemblée publique après une manifestation pour parler de la construction à venir. Ensuite, en septembre-octobre 2020, c'était la marche nationale des personnes sans papier. Et elle passait du coup à Lyon, donc elle partait de Marseille pour aller à Paris. Elle passait à Lyon et à ce moment-là, il y a eu un rassemblement, enfin, il y a eu donc une manifestation et un rassemblement devant le CRA existant, le CRA 1. Et c'est un moment où s'est posé la question de est-ce que du fait que ce soit une large mobilisation quand même très médiatisée avec aussi beaucoup de personnes concernées, est-ce que dans le même temps de cette marche, on organise une action contre la construction au-delà de l'information qu'il va y avoir un deuxième prêt. C'est un moment où où il y a eu des accords quoi, stratégiques avec notamment les associations de soutien qui étaient dans l'organisation de la marche des solidarités. Donc le chantier, il a effectivement commencé à la fin de l'automne, fin septembre 2020. À la base, le début du chantier était prévu du coup en mai 2020. Il a finalement commencé donc à la fin du mois de septembre 2020.
Oui, et du coup il a été décalé puisqu'il y a eu le Covid. Bonsoir. Du coup, on va continuer cette petite chronologie avec un autre rappel lié au Covid, puisque du 30 octobre au 15 décembre, il y a eu le deuxième confinement. Et aussi pour rappeler que pendant tout ce temps-là, le CRA 1 il était ouvert et donc on continuait nos activités de. Ah, pardon. Oui, du coup, il y a eu le deuxième confinement, et pendant toute cette période, cette temporalité dont on vous parle, le CRA 1 était ouvert, et on continuait nos actions de soutien aux personnes enfermées. Et du coup, c'est quand même ça qui nous mobilise de manière prioritaire, et c'est aussi une des réponses à la question de pourquoi on n'a pas aussi réussi à être 100% mobilisés sur cette question de la construction. Et donc, dans tout ce temps, on faisait aussi des tractages, des réunions publiques, des manifs, des collages, etc. On a fait une manif en janvier 2021 et on l'a co-organisée avec le collectif des sans-papiers et le Genepi, qui n'existe plus à Lyon. Qui était une association étudiante anticarcérale. Et quelques mois après, en avril, on a refait une manifestation avec un collectif de soutien aux personnes exilées LGBTQIA+, toujours le collectif des sans-papiers, et aussi une organisation plus importante qui est le collectif soutien migrants 69, qui est en fait une inter-orga avec des syndicats, des partis, etc. Et c'est là qu'on a eu un petit peu une petite dissension, puisque on n'avait pas rédigé un même texte. Et c'est là aussi où on voit que ça a été difficile de mobiliser en commun. Parce que le collectif Soutien Migrants 69 ne voulait pas utiliser le terme racisme d'État que nous avions utilisé. Donc ça, c'est aussi une des explications au fait que nos luttes ont été aussi un tout petit peu compliquées. Voilà. En janvier 2022, du coup, le CRA numéro 2 a ouvert. Et donc, il y a eu un transfert des prisonniers de l'ancien CRA vers le nouveau CRA. Et à l'occasion de ce transfert de prisonniers, donc, les CRA sont séparés de, je pense, 5 km, même pas. Du coup, c'est un trajet en voiture assez court. Et donc, à cette occasion, il y a eu une petite action de tentative de blocage. Donc, des gens se sont mis sur la route. Il y a une petite tentative de manifester aussi du soutien aux personnes qui étaient transférées à ce moment-là. Parce qu'on le rappelle, du coup, l'aéroport où se situent les deux CRA, c'est une très grande zone. Et elle est très excentrée. Du coup, il n'y a que les personnes qui viennent à l'aéroport qui s'y rendent. Donc, on n'allait pas bloquer la route. Et ce n'était pas une action très visible, c'était vraiment une action à la fois symbolique et de soutien aux personnes enfermées. Ensuite, en juillet 22, il y a eu l'inauguration officielle du CRA avec Darmanin, qui est venu, dans un contexte de polémique autour des violences dans un quartier emblématique de Lyon qui s'appelle la Guillotière. Et donc là, il y a eu un moment de grosse instrumentalisation. Et ça a un petit peu fait comme si le CRA 2, le nouveau CRA venait d'ouvrir et que du coup Darmanin était en action contre évidemment la délinquance, etc. Et c'est à ce moment-là que Darmanin a annoncé la réouverture de l'ancien CRA. Alors, on s'en doutait, mais ce n'était pas une annonce officielle. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a su qu'il y allait officiellement avoir deux CRA à Lyon, et donc deux fois 140 places. Du coup, c'était dans ce contexte politique-là. Et donc, pendant tout 2022, le CRA 1 a été fermé pour les travaux, suite au transfert donc, des prisonniers. Et il est resté vide pendant quasiment un an. Et à ce stade-là, on n'a pas réussi à lutter contre la réouverture de l'ancien CRA parce qu'on était un petit peu épuisés et démoralisés sur le sujet des constructions et qu'on continuait nos actions de soutien aux personnes enfermées. Donc en janvier 2023, le CRA 1 a réouvert. Et pendant tout ce temps où il a été fermé, il y avait un petit peu une communication de la part du gouvernement avec une grande ambiguïté sur qu'est-ce qu'ils allaient faire de cet ancien CRA. Et parce que la justification pour en construire un nouveau, c'était par rapport aux conditions, aux mauvaises conditions d'enfermement. À l'occasion de la réouverture de l'ancien CRA, il y a eu des petites actions symboliques. Donc on n'ouvre pas un CRA sans casser d'œuf. Donc il y a eu des... Pardon. À l'occasion de la réouverture de l'ancien CRA, il y a eu des petites actions symboliques où le portail du CRA a été enchaîné. Et il y a eu des tags et de la peinture. Mais encore une fois, c'est symbolique.
Alors, maintenant, je vais faire un petit bilan de la lutte. Donc, d'abord, ce qu'on peut retenir, c'est que le contexte était très défavorable à cause du Covid. Et aussi, l'autre truc qu'on peut noter, c'est que le contexte était défavorable à Lyon, parce qu'il n'y avait jamais beaucoup de monde dans les manifs de soutien aux luttes des sans-papiers et des personnes migrantes. Et on était un très petit collectif. Très monopolisé par la lutte contre le CRA 1 et le soutien aux prisonniers, donc pour relayer leurs paroles qui restaient le cœur de nos luttes, donc pour relayer aussi leurs nombreuses révoltes, leur grève de la faim, donc au CRA 1. On organisait aussi des parloirs sauvages et cette lutte nous rendait très visibles. On n'a pas réussi à créer une communauté de mobilisation autonome et fort, alors qu'on a gardé l'espoir pendant longtemps que d'autres personnes se saisissent du sujet, donc soit pour des grosses mobilisations publiques, soit pour des actions directes qui auraient ralenti. On n'a pas réussi à créer de comité de mobilisation, donc autonome et fort. Alors qu'on avait l'espoir pendant longtemps que d'autres gens se saisissent du sujet, donc soit pour des grosses mobilisations publiques, soit pour des actions directes qui auraient ralenti le chantier. Et une difficulté aussi, c'était que le CRA était loin du centre, et donc c'était dur de mener une mobilisation sur place et de visibiliser ce qui se passait. Donc il y avait eu l'idée à un moment de mettre une banderole
avec écrit « Ici, on construit une prison pour étrangers et étrangères ». Mais cette banderole n'aurait pas été très vue. Enfin, ce travail de visibilisation et de mobilisation a quand même participé à faire connaître davantage le sujet à Lyon, avec le collectif anti-CRA qui s'est renforcé, même si le CRA 2 a ouvert. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'est renforcé. Et pendant tout ce temps, on a fait un travail d'information auprès des personnes concernées, notamment dans le CRA 1, en recueillant des témoignages. Et eux aussi avaient des infos sur les constructions avec les flics qui parlaient dans le CRA. Et après l'ouverture du CRA 2, sur le recueil des témoignages. Donc on a fait un travail d'information auprès des personnes concernées, donc notamment dans le CRA 1. Et on a recueilli des témoignages et eux aussi avaient des informations sur ce qui se passait via les flics qui parlaient dans le CRA. Et après l'ouverture du CRA 2, on a aussi recueilli des témoignages auprès des prisonniers. Mais le travail de soutien au CRA 2 était plus difficile parce que c'est un CRA ultra moderne, ultra sécuritaire. Et donc le lien est plus difficile à faire.
Maintenant, je vais vous dire deux mots sur la manière dont... dont on lutte aujourd'hui et comment ça se passe pour nous, maintenant que les deux CRA sont ouverts et qu'on concentre presque tous nos efforts sur le soutien aux personnes enfermées et plus contre les constructions. Comme ça a été dit avant, le cœur de notre lutte, c'est vraiment le soutien aux personnes enfermées. Et ça passe par plusieurs moyens. Déjà, on se met en contact avec eux en appelant les cabines du CRA. Parce qu'il y a des cabines téléphoniques dans le CRA qu'on va appeler une ou plusieurs fois par semaine. On va essayer de parler avec les gens qui nous répondent, d'avoir leur identité, ensuite qu'ils nous rappellent eux avec leur numéro de téléphone privé, s'ils ont un téléphone, parce qu'il y a toujours un risque que les cabines des CRA soient écoutées. Ensuite, on va organiser des visites avec les personnes avec qui on est en contact. On va leur apporter du soutien matériel. L'hiver, on va leur apporter des vêtements chauds, par exemple, parce qu'il faut savoir qu'ils ne mettent pas forcément le chauffage dans le CRA et l'hiver, il peut faire très, très froid. On va leur apporter des clopes, de la nourriture, du café, du thé. Enfin, on leur demande ce dont ils ont besoin et on va leur amener. Aussi, dans les CRA, en gros, la durée maximale d'enfermement, elle est 3 mois, sachant que tous les 28 jours, ils ont une audience devant le ou la juge des libertés et de la détention. Ces audiences, elles sont publiques, et donc, quand les personnes avec qui on est en contact ont des audiences, on va essayer d'aller les voir, juste pour qu'ils aient un visage familier dans la salle, et qu'on puisse essayer d'échanger deux mots avec eux. Ça, c'est une manière aussi qu'on a de leur apporter du soutien plutôt émotionnel. Et aussi, quand les personnes veulent bien, on va faire des témoignages. Donc, c'est-à-dire qu'on va les appeler et ils vont nous dire, en fait, ils vont nous partager leur expérience dans le CRA, nous dire comment ça se passe, etc. Et après, nous, on va relayer ces témoignages sur nos réseaux. On a un blog sur lequel on poste tous nos témoignages, donc on va essayer de visibiliser le plus possible leur situation et dans leurs propres mots, en fait. Et aussi, Dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des flyers d'auto-formation juridique pour les personnes concernées. En gros, pour qu'elles évitent de se faire contrôler. Ensuite, comment se protéger pour éviter d'aller en garde à vue. Ensuite, comment se protéger en garde à vue. Et enfin, comment faire en cas d'enfermement en CRA. Et on essaye de faire de la transmission d'informations auprès des personnes concernées. Donc, par le biais d'ateliers, de discussions, des choses comme ça.
Si j'ai oublié quelque chose.
Et évidemment, on organise des manifestations, des rassemblements contre les CRAS, mais en général, on est aussi en lien avec on est très en lien avec le collectif Sans Papiers de Lyon et avec d'autres collectifs anticarcéraux. Donc, on fait aussi de la solidarité entre collectifs et on s'entraide et on organise des rassemblements et des manifestations ensemble aussi. Et aussi, on organise des parleurs sauvages. Donc en gros, c'est aller devant le CRAM, on fait ça de nuit plutôt, mais dans certaines villes comme à Paris, je crois, ils font ça en pleine journée aussi, ça arrive. Mais en gros, c'est d'aller devant le CRAM. Un endroit où les prisonniers et prisonnières peuvent nous entendre. Et on vient avec un système son et on passe de la musique. Avec le micro, on leur parle, on interagit avec eux. Et ça ne dure pas très longtemps parce que il ne faut pas qu'on reste très longtemps au cas où la police arrive et décide de nous interpeller. Mais c'est un moment où on passe de la musique, on leur demande quelle musique ils voudraient écouter, on interagit avec eux et on leur rappelle qu'il y a des gens qui pensent à eux et qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, mais on répondra avec plaisir.
La question est, les gens prisonniers, est-ce qu'ils ont droit de recevoir des avocats?
Alors, oui, parce qu'ils passent tous les 28 jours, les personnes enfermées passent tous les 28 jours au tribunal. Et lorsqu'ils sont au tribunal, il y a un avocat qu'on dit commis d'office, c'est-à-dire qu'il y a toujours un avocat à ce moment-là. Oui, c'est un moment où on décide ou non si on continue à enfermer les gens. Souvent, c'est des avocats qui connaissent pas très bien les dossiers. Autre chose, il y a une association dans chaque centre de rétention administrative qui est censée faire respecter les droits, mais ils sont financés par la préfecture et travaillent beaucoup avec eux. Et on observe assez souvent des problèmes dans la transmission des documents pour le tribunal, etc. Ils n'ont pas le droit. Je ne vais pas trop parler dans mon micro, mais pour répondre aussi à ta question, il me semble que les avocats, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le centre.
Après, s'ils prennent une visite, c'est bien en tant qu'avocat, mais...
Ouais.
Oui. Bon, non.
Peut-être qu'ils peuvent faire une visite comme toute personne. Mais tu ne peux pas venir et dire « je suis avocat, j'ai le droit de parler 3 heures avec la personne ».
Comme disait Ali, les avocats souvent sont au courant des dossiers qu'ils auront à traiter au tribunal la veille, quoi. Enfin, c'est une défense vraiment. Enfin, voilà. Et devant les passages au JLD, donc juge des libertés de la détention, de quoi il est question, c'est vraiment l'enfermement en CRA, est-ce que ça dure ou pas, et c'est jamais question de la situation globale administrative de la personne. Ce qui est assez violent aussi parce que quand la personne passe devant le juge, souvent elle a envie de parler d'elle et de sa situation, de sa demande de papier ou pas. Enfin voilà. Et c'est des questions qui sont complètement évacuées de cet endroit-là. C'est vraiment purement administratif. Est-ce que le protocole a été respecté? Oui, bon, la détention continue, quoi.
La question d'Ibrahim, quelqu'un qui est en cours d'asile, qui est en parcours d'asile encore, qui n'a pas obtenu ses documents, est-ce qu'il se permet de participer aux manifestations anti-ACRA ou est-ce qu'il y a un risque qu'il se fasse arrêter et se retrouver dans la même merde, par exemple? Je vais juste se rassurer pour ça.
Y a toujours un risque à participer aux manifestations. À Lyon, comme on a dit, on s'organise beaucoup avec le collectif de personnes sans papier de Lyon. Donc oui, il y a des collectifs de personnes sans papier et des personnes sans papier qui participent aux manifestations. À Lyon, en tout cas, je crois qu'il n'y a jamais eu trop de problèmes d'interpellation et d'enfermement en CRA suite à une manifestation anti-CRA. On fait, quand on organise des manifestations anti-CRA, on les déclare tout le temps. On fait toujours en sorte que ce soit légal et autorisé par la préfecture pour réduire les risques au maximum. Après, je pense que ça dépend beaucoup du contexte de chaque ville. Nous, avec l'expérience, on sait qu'à Lyon, ça se passe plutôt bien. Et du coup, on peut dire de manière assez sûre que ces manifestations-là représentent peu de risques pour les personnes sans papier. Mais chaque ville, le contexte de chaque ville est différent et on peut pas, il n'y a pas de risque zéro, quoi. Mais si c'est une manifestation déclarée, autorisée et légale, la plupart du temps, en tout cas nous, dans notre expérience, pour l'instant, il n'y a pas eu d'enfermement au CRA suite à ces manifestations-là.
Et aussi sachant que si c'est une personne en cours de demande d'asile, en fait les personnes qui sont enfermées dans les CRA, c'est des personnes qui ont reçu des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire français. Et du coup, une personne qui fait sa demande, enfin qui est en train de faire sa demande mais qui n'a pas été déboutée, elle ne peut pas recevoir une OQTF et du coup, normalement, elle ne peut pas être enfermée en CRA.
Et on va répéter dans le micro pour des questions de traduction que les personnes qui traduisent. Moi, j'avais deux questions, mais dont une où la réponse a été donnée, si on a donc bien compris, il n'y a pas de MNA qui sont en centre. De mineurs non accompagnés. Si, vous avez connaissance?
Des mineurs, oui, mais pas.
Et la deuxième, du coup, savoir s'il y avait des mineurs non accompagnés qui étaient en centre de rétention. Et donc, l'autre question qui en découle, est-ce qu'il y a des familles également? Donc, pour l'instant, les mineurs non accompagnés sont autorisés à Mayotte.
Oui,
dans les CRA.
Mais non, ma question, c'était, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des actions pour Lyon, pour l'annulation de la présence des CRA?
Donc, la personne demande si à Lyon, il y a eu des manifestations pour tenter de annuler la présence des CRA. Il y a encore une question qui est qu'est-ce qui se passe au bout de 90 jours? Est-ce qu'ils sont automatiquement expulsés? Déjà, c'est assez rare que les personnes elles restent vraiment les 90 jours au CRA. Souvent, les personnes elles sont expulsées avant les 90 jours et ou relâchées, ça arrive aussi. Et après, au bout des 90 jours, normalement, la préfecture est censée relâcher la personne. Elle garde son obligation de quitter le territoire français, qui est toujours valable, et elle a un papier qui dit qu'elle ne peut pas être de nouveau arrêtée pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, elle peut de nouveau être arrêtée et renvoyée en CRA 3 mois. Et on est souvent en contact avec des personnes qui ont fait de nombreux séjours en CRA. Et aussi, ce que fait beaucoup la préfecture, c'est d'envoyer les prisonniers des CRA en prison, les vraies prisons et maisons d'arrêt, en utilisant des prétextes. Si une personne a résisté à son expulsion ou a commis un outrage envers un policier, ça peut être un prétexte pour envoyer la personne en prison. Ensuite, la personne fait sa peine et souvent, elle est de nouveau envoyée au CRA en sortant de la prison. Donc ça fait que des gens peuvent passer 3 mois au CRA, 6 mois en prison, de nouveau 3 mois en CRA. Et pour certaines personnes, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, comme ça. Et après, sur la question des manifestations pour la disparition des CRA, toutes les manifestations qu'on organise, elles sont pour l'abolition des centres de rétention. Voilà. Mais après, c'est pas... C'est la revendication, quoi. Mais... Ah oui, et sur les mineurs, oui, c'est possible, quelqu'un veut répondre. En saut, oui.
Il y a encore une réponse. Hop.
Enfin, il me semble que du coup, pour les MNA, en théorie, légalement, ils ne sont pas censés pouvoir être envoyés au centre de rétention. Sauf qu'en fait, ça arrive parce qu'il y a des MNA qui ne sont pas reconnus mineurs, on leur attribue un âge majeur. Et du coup, il y a des MNA qui se retrouvent en centre de rétention de fait. Et du coup, la question des familles, oui, en centre de rétention, il y a des familles. Et juste, j'ai pas trop suivi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un élément, mais normalement, dans la nouvelle loi Darmanin, il y a un truc par rapport aux familles, non? Normalement, ils voulaient... Enfin, je ne sais plus exactement c'est quoi le statut. Jusque maintenant, il y avait des familles. Et j'ai entendu un truc comme quoi, dans la loi Darmanin, il y avait un élément qui voulait enlever les... Enfin, il voulait qu'il n'y ait plus de familles. Mais je crois que ça n'a pas été retenu, je crois.
Je pense que... déjà, c'est illégal que des personnes mineures soient enfermées en CRA. Ça va être des mineurs qui vont pas avoir le statut de mineurs non accompagnés. Mais je crois que l'enfermement en CRA, c'est légal à partir de 16 ans. Non? Si? Pas sûr, non? Par rapport aux familles et la nouvelle loi Darmanin,
Le CRA qui a ouvert le plus récemment, donc celui d'Orléans, qui a ouvert début février, il a un quartier famille dedans. Donc j'imagine que c'est encore légal d'enfermer des familles en CRA. Même si l'écrasante majorité des personnes enfermées en CRA, c'est des hommes. Mais c'est légal et il y a quand même le risque d'enfermer des familles.
Oui. Il me semble que jusqu'à la loi Darmanin, en fait, il pouvait y avoir des mineurs à condition qu'ils soient accompagnés de leurs représentants légaux, genre leurs parents. Après, un truc qui se produisait, c'était aussi d'attribuer de manière un peu random des mineurs à des majeurs pour pouvoir les mettre en CRA légalement. Donc, enfin, il y avait quand même des manières de le faire. Et il me semble que, du coup, un des trucs qui est passé avec la loi Darmanin, c'est que... Enfin, maintenant, les quartiers familles, en fait, plutôt, c'est les quartiers où ils mettent des meufs, des personnes assignées meufs. Et que l'autre, enfin le nouveau truc pour les familles, c'est les LRA, c'est les locaux de rétention administrative, où c'est des locaux qui peuvent être dans des commissariats, qui peuvent être dans des hôtels, des trucs comme ça, dans lesquels les gens peuvent être enfermés. Il me semble que c'est 3 jours, la durée 6 jours. Enfin, il me semble que c'est un peu moins d'une semaine en gros. Et la nouvelle orientation, c'est plutôt de, en fait, un peu une réponse aux revendications et aux mobilisations un peu citoyennistes. Contre les centres de rétention qui mettaient très en avant le fait que c'était horrible parce qu'il y avait des enfants et des femmes enfermés. Et du coup, la réponse sur laquelle Darmanin a beaucoup communiqué, c'est justement de dire... Pardon. C'est de dire on va créer des formes d'enfermement plus humaines pour les familles. Et en CRA, bientôt, ça sera plus que les personnes sans papier qu'on décrit plus comme indésirables, qui sortent de prison, des choses comme ça.
Et aussi, ah ben c'est... Et après, en tout cas, c'est la théorie par rapport au fait que, du coup, des mineurs ne peuvent plus être en CRA. Après, dans les faits, je ne sais pas, mais nous, il y a 2 semaines, je crois, il y avait des personnes d'entre nous qui était en contact avec un mineur, justement, qui était enfermé. Du coup, voilà, genre, après, entre ce que la loi dit et ce qui se passe réellement, il y a quand même une différence. Et aussi, je crois que dans la loi, il y a une exception par rapport à Mayotte et les autres, et je crois les autres territoires d'outre-mer dans lesquels il y a tout le temps un droit d'exception néocolonial qui s'applique. Et genre par rapport à la question de mineurs, par contre, là-bas, c'est possible d'enfermer des mineurs. C'est qu'à Mayotte. Okay.
Moi, je voulais juste dire par rapport aux expulsions que j'ai l'impression que c'est assez intéressant de comprendre que les centres de rétention, c'est vraiment des lieux de répression intense et que quand on voit les chiffres, enfin les taux d'expulsion, j'ai l'impression que ça permet de bien comprendre ça. Et donc, ils changent en fonction des différents centres, les taux. Mais à Lyon, je crois qu'en 2023 ou 2022, c'était 60% des personnes qui passent dans les CRA qui sont expulsées. Et c'est un taux qui est très haut sur la France métropolitaine. Du coup, la plupart des CRA, c'est moins de 50% de personnes qui passent et qui sont expulsées. Donc, la plupart des personnes qui passent dans le CRA ne sont pas expulsées. Pour plein de raisons, parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas être expulsées. Pardon. Et le CRA qui a le taux d'expulsion le plus haut, c'est celui de Mayotte.
Pour mettre en considération le pays de l'emploi. Donc, une des raisons pour lesquelles des personnes bien confirmées en CRA avec OQTF et IRTF interdiction de retour sur le territoire français, qui au passage la durée des OQTF et des IRTF est prolongée dans la nouvelle, enfin, la dernière loi. IRTF, interdiction de retour sur le territoire français.
OQTF, c'est obligation de quitter le territoire français.
Donc, une des raisons pour lesquelles le renvoi pour autant n'aura pas lieu, c'est qu'il faut un accord consulaire. Et qu'il y a un certain nombre de pays, du fait des situations de guerre ou qu'il n'y a pas de diplomatie en place, voire même d'aéroports qui fonctionnent. Il n'y a pas d'accord consulaire. Donc même si la personne... a fait les 90 jours actuellement de présence dans le CRA, la personne ressort sans papier, en situation irrégulière. Donc il y a aussi un certain nombre de mises en CRA qui n'aboutissent pas à une expulsion, malgré la volonté de l'État, parce qu'il n'y a pas d'accord consulaire. Elle sort du CRA. Ils ne peuvent pas la garder plus de 90 jours. Enfin, c'est ça qu'ils veulent rallonger encore, la durée de possibilité de garder les gens dans les CRA. Voilà.
Je voulais juste répondre rapidement à ça. C'est que ça, c'est vrai, et aussi en fait, il y a plein de gens qui, par exemple, dans leur pays, n'ont jamais été recensés parce qu'ils sont partis quand ils étaient très jeunes, etc. Et ça, l'État, il en est conscient, mais en fait, c'est pour ça qu'on dit que le centre de rétention, il n'a pas juste pour objectif d'expulser les personnes, mais aussi d'opérer un contrôle sur les gens et un rôle de répression et de dégoûter les gens pour qu'en fait, ils aient envie de quitter le pays. Parce que quand tu te retrouves une fois, deux fois, trois fois en centre de rétention, en fait, c'est à la longue, c'est de la torture psychologique et juste les gens, ils vont en Italie, en Espagne, ou juste ils acceptent, enfin bref, ils ne veulent plus être en France, quoi.
Mais aussi, il me semble que même si il n'y a pas d'accord avec le consulat des pays soi-disant d'origine des prisonniers, parfois ils demandent un laissez-passer, une autorisation d'expulser à un pays qui n'est pas le pays d'origine des gens. Par exemple, à Lyon, la préfecture de Lyon est en mauvais terme avec le consulat d'Algérie, ce qui fait qu'il n'y a aucun laissez-passer pour l'Algérie qui est délivré, quasiment. Mais parfois, la préfecture de Lyon va demander un laissez-passer à la Tunisie, quoi. Il y a des personnes qui vont se faire expulser en Tunisie, par exemple. Donc c'est pas forcément des personnes originaires de pays en mauvaise relation avec la France n'ont pas 100% de chance de rester sur le territoire non plus, quoi.
Merci.
Moi, j'avais trois questions encore, et Osée, on peut en prendre du coup avec toi, toi et toi. Du coup, on peut faire ces trois questions et après on s'arrête si ça vous va.
Ensuite, il y aura un repas, et on est vraiment contents qu'il y ait autant de monde, mais on n'avait pas assez, donc voilà.
Merci pour la présentation. Moi, je voulais savoir, après la prise de position de deux députés ELV du Rhône, si ça avait abouti à quelque chose et si les élus écolos de Lyon s'étaient positionnés et avaient, avaient pu être des alliés à un moment donné ou pas du tout. J'ai regardé rapidement, mais c'est deux députés du Rhône ELV qui sont allés visiter le CRA de Saint-Ex et qui ont dit que les conditions de détention étaient dégueulasses. Enfin, pas dégueulasses, mais pas humaines.
Ça va ? Je peux essayer de commencer à répondre et après je vous laisserai compléter. Du coup, en effet, les députés ont le droit de rentrer dans le CRA. C'est les seules personnes juridiquement qui ont le droit de faire des visites. Souvent, on envoie des mails aux députés pour les alerter sur ce qui se passe dans le CRA. Souvent, suite à des demandes aussi des prisonniers qui sont en grève de la faim ou dans des moments de révolte. Et alors, oui, les députés disent que les conditions sont dégueulasses, mais ils s'arrêtent là. Ils parlent juste des conditions. Ils ne parlent pas de l'existence même des CRA contre lesquels, généralement, ils ne s'opposent pas formellement. Et du coup, on s'arrête à cette question-là, et on serait matériel et pas du tout structurel.
Il y a aussi le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une instance juridique, qui a été saisie et qui a émis un rapport sur les conditions de détention des CRA de Lyon, qui est un rapport jugé comme alarmant, mais qui s'arrête également aux conditions de détention et pas à l'existence des CRA. Il y a aussi une sénatrice qui a visité le CRA et qui a eu le même constat. Et grâce à ces visites de députés, il y a des équipes de journalistes qui ont pu les accompagner et qui ont pu... ça a donné lieu à des reportages et des articles sur, et à des images, surtout de l'intérieur des CRA. Et du coup, ça... même si ça fait pas d'eux des alliés politiques avec lesquels on est forcément d'accord, c'est quand même des ressources précieuses journalistiques d'avoir des images de l'intérieur des CRA. Parce que les équipes de journalistes peuvent accompagner les députés et la police peut pas s'y opposer.
Mais après, on a dépensé pas mal d'énergie pour essayer d'interpeller les députés. Je me souviens plus si les Verts, les écologistes, s'ils ont pris position pour la fermeture des CRA. Peut-être, mais je me souviens plus. Mais par exemple, la France Insoumise, ils l'ont fait. Et dans certains départements, il y a des députés de la France Insoumise qui sont allés dans les CRA. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils sont accompagnés de journalistes. Mais après, le bilan, je trouve, c'est que c'est quelque chose de très instrumentalisé par le gouvernement et la préfecture. Par exemple, les images qu'ils montrent à l'écran, c'est des images très soigneusement choisies par les policiers, l'administration du CRA. Et c'est une image, pardon. Ce qui sort à l'écran, même si un député dénonce les conditions et qu'il y a des images à la télé, globalement, les faits, il est assez maigre. Et par exemple, la prise de position des députés écologistes à Lyon, elle a eu franchement pas beaucoup d'effet parce que
Il n'y a pas eu pour autant plus de mobilisation dans la rue. Voilà.
Bon, en fait, j'ai une question à déposer. Et avant tout, merci de nous avoir invités pour échanger. Concernant ma première question, c'est sur la loi de l'immigration que vous avez parlé sur la nouvelle loi qui est adoptée. Est-ce que la personne qui a eu un droit de quitter avant cette adaptation de loi, après s'il était contrôlé par des policiers ou bien par des agents administratifs, est-ce qu'il a le droit de dire non, à retourner chez lui ou bien à refuser? Sur les droits de l'étranger, est-ce qu'il a le droit de refuser ou pas? Si oui, est-ce qu'il peut avoir un avocat pour l'avoir faire son propre défense? Sinon, par exemple, aujourd'hui, certains pays ils sont confrontés par des guerres, par exemple, plus précisément en Afrique, pour dire, même le Soudan, la Libye et le Niger. Ils ont coupé de coopération diplomatique. Si la personne qui refuse de dire non volontairement, il ne veut pas retourner chez lui, c'est qu'il a le droit de rester ou pas sous la loi du code civil, bien, du code pénal ou bien du droit de l'étranger. Merci à vous tous.
Il y a une liste des pays considérés comme non sûrs qui est actualisé, je ne sais plus à quelle fréquence. Du coup, les pays en guerre, les pays avec des tensions géopolitiques qui sont jugés comme non sûrs, où on ne peut pas renvoyer les personnes. Et sinon, toutes les personnes ont droit à un avocat, dans tous les cas. Et... Et sinon, par rapport au truc un peu dont tu parles sur les OQTF, est-ce que tu peux refuser d'être expulsé, des choses comme ça? Je pense que à la fois il y a des formes de recours juridiques, par exemple les OQTF, ça peut se contester. Après, il y a un délai qui peut différer d'une fois à l'autre, mais tu peux contester une OQTF et souvent c'est quand même encouragé de le faire. Et après, il y a aussi tout un, je pense, plein de trucs qui sont plus des pratiques que les gens développent, qui ne sont pas forcément des recours juridiques, mais de comment tu fais pour refuser d'être, enfin, avoir le moins de chances possible d'être expulsé, par exemple, quand tu es enfermé. Par exemple, il y a des personnes qui vont cacher, enfin, déjà ne pas avoir leur passeport et essayer de cacher leur nationalité pour ne pas pouvoir avoir de laissez-passer. Enfin, il y a plein de pratiques comme ça. Et il y a une brochure, du coup, qui est sur la table derrière. Elle est aussi disponible en version audio dans plusieurs langues sur le blog de Abalikra, qui est une brochure qui justement peut recense toutes les stratégies à la fois juridiques et non juridiques qui permettent de se défendre contre les expulsions. Voilà. Ouais, la brochure, ça s'appelle Résister à la machine à expulser, ça.
Madame, est-ce que ce serait par rapport à l'accès aux soins au sein des CRA? Est-ce qu'il y a un accès aux soins internes ou des médecins qui viennent à l'extérieur?
Je vais commencer. Ah oui, et puis dernière chose sur la question du refus, c'est que si une personne refuse un vol en restant debout, par exemple, dans l'avion, c'est possible, mais c'est souvent pénalisé par 3 mois de prison, voire 6 mois. De prison ferme. Et suite à cet enfermement en prison normale, entre guillemets, les gens retournent en CRA. Du coup, il arrive qu'il y ait des allers-retours entre le CRA et la prison.
Sur la question des soins, il y a un médecin dans chaque centre de rétention administrative et des infirmiers, infirmières, mais qui ne sont pas là en permanence. Et c'est un des points qui est vraiment raconté par les personnes à l'intérieur comme étant catastrophique, notamment sur le suivi des traitements. Et on nous raconte énormément aussi que les personnes sont shootées. Voilà. On leur donne des médicaments pour les rendre calmes et voilà.
Il arrive très souvent que des personnes demandent à avoir recours à des soins extérieurs. Des personnes, par exemple, qui ont des traitements en cours, des opérations prévues, des nécessités de consultation, de soins spécialisés, qui, pour le coup, sont pas présents dans le CRA, et que l'accès à ça leur soit barré par l'équipe médicale présente dans le CRA, mais aussi par les associations qui sont censées garantir l'accès aux droits, Alliance et Forum Réfugiés, et qui participent directement et qui collaborent directement avec les violences qui ont lieu dans ces endroits et qui sont aussi des violences médicales.
Et il y a aussi, très souvent, quand il y a des violences policières contre des prisonniers, les personnes qui ont subi ces violences, elles cherchent à obtenir des certificats de la part des médecins sur place pour prouver qu'elles ont été violentées. C'est indispensable, par exemple, pour porter plainte. Et la plupart du temps, les prisonniers, ils ont envie de porter plainte. Et à Lyon, et pas seulement à Lyon, les témoignages montrent bien que systématiquement, les personnels soignants qui sont présents dans le CRA ne permettent pas du tout cette dénonciation des violences policières. Et ça les rend totalement complices de ce qui se passe dans les CRA, d'autant plus que légalement, c'est obligatoire qu'il y ait des personnels soignants dans le CRA. Et à Lyon, il y a eu un peu un épisode qui a été médiatisé parce que le médecin du CRA 1, le médecin d'un des CRA, il a démissionné après plusieurs années de travail dans le CRA en écrivant une lettre où il dénonçait les conditions de son travail qui étaient devenues trop difficiles, alors qu'il avait été plusieurs fois mis en cause par des témoignages de prisonniers qu'il accusait de mauvais traitements. Et suite à ça, il n'y a pas eu d'équipe médicale pendant plusieurs semaines au CRA de Lyon. Et là, actuellement, les soins, entre guillemets, sont assurés par des équipes intérimaires. J'arrive plus à me souvenir si ça a été dit, mais c'est comme la question sur les conditions. Même si l'équipe médicale, elle était... bien. En fait, les centres de rétention, c'est des lieux où le soin, il peut pas exister pour la santé physique et mentale des personnes. Et il y a un documentaire qui vient de sortir sur le soin dans les centres de rétention, mais je me souviens plus le nom. Voilà.
Merci à tous. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un repas qui va être servi maintenant. C'est aussi la possibilité de continuer à échanger sur le sujet avec les personnes qui sont venues nous voir, qu'on peut d'ailleurs remercier d'être venues. Et je voulais juste vous rappeler...